C'est maintenant l'heure de la chronique de Florence Roux, Totem et Tabou à Xinhua.
Avant de partir en stage à Bruxelles chez Xinhua, agence de presse chinoise, certains me disent « Qu'est-ce que tu fous à Xinhua ?» D'autres me taquinent gentiment « N'as-tu pas peur de t'ennuyer ?» Donc, entre espoir et désillusion anticipée, je débarque dans le bureau maudit, à deux pas du palais Parlement, siège de la Commission européenne. C'est un bâtiment moderne de 6 étages. À l'entrée, affiche des anciennes photos sur le mur, à côté de Li Keqiang, premier ministre chinois. C'est le chef du bureau Liu Jian qui, souriant et humble, l'accompagne et lui montre le bureau de l'agence qui dirige près de 150 correspondants à travers 40 pays en Europe. J'ai passé ma première semaine dans l'édition de nouvelles en anglais. Réunion de rédaction à 10h le matin. On prévoit tous les grands titres dans la journée. Les journalistes évoquent d'une façon familière Rasmussen, chef de l'OTAN, et Wu Hailong, ambassadeur chinois à l'UE. Ça donne une impression irréaliste, surtout pour une jeune apprentie en journalisme depuis la France, où chaque jour, on se concentre que sur la politique française. J'observe souvent, et essaie quelquefois de corriger les papiers. Les journalistes me rappellent les règles d'écriture, écriture en pyramide inversée et différence entre un communiqué et un papier d'agence. Ce sont les mêmes choses que j'ai appris à l'ESG Lille. D'un point de vue professionnel, il n'y a pas de différence entre journalisme occidental et journalisme chinois. Mais, quand on travaille à Xinhua, l'intelligence politique l'emporte sur le professionnalisme. À l'issue de la conférence des ministres de défense à l'OTAN, à l'écart de l'essai nucléaire de la Corée du Nord, Le rédacteur en face de moi appelle tout de suite la direction politique à Pékin pour savoir la pertinence de la sortie de ce sujet. Différent de l'AFP, l'agence chinoise n'embauche pas spécialement des anglo-saxons. Des papiers sont écrits et corrigés par les Chinois, parmi les 30 journalistes. Il y a 5 Européens qui s'occupent du tournage et du montage de vidéos et ne touchent pas à la rédaction des dépêches écrites. Et l'agence Xinhua assume à 100% son statut dépendant de l'autorité du Parti communiste. Pourtant, elle s'oriente de plus en plus vers les fonds privés puisque la subvention de l'État ne présente que moins d'un tiers de son budget. Des services multimédia se développent assez vite, des offres en 8 langues renforcent son influence, le marché africain dans la poche, l'agence Xinhua est plus que jamais ambitieuse.
Merci Florence pour cette dernière chronique de la saison. Puisque vous venez de passer un an à l'école de journalisme de Lille, vous avez fait quelques chroniques dans Bruit de Chine tout au long de l'année et maintenant vous allez retourner en Chine à la fin du mois de mai. C'est donc le meilleur moment pour vous poser quelques questions. Et ben, moi j'avais envie de commencer tout simplement par vous dire que puisqu'on dit que Xinhua est la plus grande agence de presse du monde, certes, mais de propagande du monde, est-ce qu'après votre stage, vous avez changé d'avis? Est-ce que ce n'est pas finalement la plus grande agence de propagande du monde?
La plus grande, je suis pas sûre. Pour la couverture des actualités internationales, en fait, il n'y a pas de différence entre l'agence Xinhua ou le Reuters ou AFP. Bah, le problématique, ça se trouve quand on couvre l'actualité chinoise. Puis bah, il s'agit ce qu'on dit la bataille des idées. C'est pourquoi le Xinhua, l'agence Xinhua, il concentre même sur le Weibo, le Twitter chinois, même si que sur ce côté-là il gagne pas forcément de l'argent, mais il s'agit de la bataille des idées.
Alors expliquez-nous un petit peu comment c'est quoi cette bataille des idées. C'est un soft power qu'il faut gagner. Et comment ça se passe Weibo, avec Weibo et tout ça?
Comment ça se passe? Sur le Weibo, ça c'est, on dit, le forum ou l'espace Internet le plus libéral en Chine. Bah, c'est libéral parce qu'on peut dire ce qu'on veut,
presque.
Et du coup, il y a des autres voies. C'est pas forcément les voix que le Parti communiste voudrait entendre. Et du coup, et pour balancer pour un petit peu ce champ de bataille, et puis il veut que l'agence Xinhua et puis les autres médias du Parti communiste investissent pour que les gens entendent les autres voix, enfin, c'est-à-dire les voix aussi du Parti communiste.
Ah oui, d'accord. Oui, okay. Ouais. C'est investir les nouveaux médias pour qu'il n'y ait pas que des contestataires qui s'expriment sur la toile, en fait. Comment s'effectue la collecte d'informations? Parce qu'il y a, paraît-il, plus de 1000 dépêches par jour.
Ah, il y a 1000 dépêches, j'ai pas compté, chaque jour, en fait, parce qu'il y a aussi une collaboration, même si que c'est toujours en concurrence avec les autres agences, mais il y a aussi il y a une collaboration avec les autres agences. Si il reçoit des dépêches des autres agences, et puis l'agence Xinhua, il suit aussi. Mais je crois, mais leur son avantage, c'est plutôt sur les actualités en Chine, et puis il traduit dans les autres langues.
Bien sûr. Alors, il y a quelques chiffres qui datent un peu de quelques années, mais donc l'agence Xinhua fournit de l'information à 306 radios, 369 chaînes de télévision, 2119 titres de journaux et 9038 périodiques. De toute façon, à l'heure où je vous parle, ces chiffres sont déjà à la baisse, j'imagine. Enfin, plutôt à la hausse, et ceux-là sont bien trop bas. Mais ça montre quand même l'espèce de gigantisme qui est assorti au pays. Un grand pays, une grande agence, c'est tout à fait normal. Alors, vous étiez à Xinhua, une étudiante dans une école de journalisme à l'étranger. Et comment ça s'est passé? Vous avez travaillé de la même manière que les journalistes chinois?
En tant que stagiaire?
Oui, en tant que stagiaire.
En tant que stagiaire, en fait, moi, c'est plutôt sur l'édition. C'est sur l'édition, sur les papiers qui ne sont pas tellement urgents, en fait. Ce sont les journalistes qui s'occupent de tout, en fait. En fait, c'est un peu différent aussi, parce qu'à Bruxelles, ça, c'est le siège de l'Europe, en fait. On n'écrit pas beaucoup de papiers chaque jour, mais la plupart du temps, les gens, on corrige un peu pour savoir, parce qu'il y a des sujets. À l'étranger, c'est pas forcément sensible, mais quand même. Alors, c'est à ces rédacteurs de savoir comment ça fonctionne, pour signer ou pas. Pour la sortie de ce sujet, en plus de ça, c'est-à-dire chaque jour, il y a les 40 pays, il y a des correspondants qui envoient leurs papiers, et puis c'est à les rédacteurs à Bruxelles de savoir...
qui décide ce qui se publie ou pas.
Ouais.
Vous avez trouvé une différence entre les méthodes de travail en France et celles à Xinhua?
Méthode de travail, en fait, pour la méthode de travail... C'est plus de méthode de travail en France à l'enseignement, à l'université, en fait. C'est plus différent parce que même les journalistes à Xinhua qui me disent tout le temps, est-ce qu'à votre école, c'est plus de pratique ou théorie? Voilà, en Chine, dans les écoles de journalisme, c'est plus de théorique. On apprend tout, on apprend même les histoires de journalisme, la communication et tout ça. Mais par exemple, en France, dans les grandes écoles de journalisme, c'est plus de la pratique. C'est ça la différence entre les deux enseignements, en fait.
D'accord, très bien. Vous nous avez aussi quand même dit qu'à Xinhua, avant que les choses soient publiées, il y avait un petit coup de fil pour dire, voilà, est-ce que ça se publie ou pas. Alors vous venez, on l'a dit tout à l'heure, de terminer votre première année à l'école de journalisme de Lille. Dans un an, vous serez diplômée. Comment vous voyez votre avenir de journaliste chinoise?
Mon avenir... Enfin, c'est un peu de dire ça, mais moi, j'aimerais, par exemple, travailler pendant un an ou deux ans en France. Ben, moi, je pense que cette expérience va me valoriser, mais finalement, je vais rentrer en Chine. Voilà, c'est ce que je vois à mon avenir.
Disons quelques années en France pour parfaire l'expérience, en quelque sorte.
Ouais.
Mais moi, la question qui était sous-jacente derrière, c'est un avenir de journaliste en Chine. Comment ça peut s'envisager quand on a appris finalement en France, dans une totale liberté d'expression, on va dire? Alors comment vous imaginez ça? Peut-être travailler à Xinhua demain à Pékin, pourquoi pas?
Bah, parce qu'en Chine, il n'y a pas seulement le Xinhua, il n'y a pas seulement les médias pour le Parti communiste. En fait, les médias qui s'orientent vers le marché, qui voudraient être libérales, qui voudrait, voilà, le modèle pour il y a une grande partie des médias, le modèle, c'est le modèle américain. Et puis, voilà, il y a pas mal des diplômés des universités étrangères qui sont pas mal appréciés, en fait, dans ces genres de médias, on l'appelle libéral, en fait.
D'accord.
Par exemple, il y a un média qui s'appelle Caixin, et puis même, on l'appelle American Pie. comme ça pour dire l'influence américaine dans les médias chinois.
C'est pas mal, c'est American Pie, je retiens. Florence Roux, merci. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et on vous retrouve pour vos vacances. Et on vous retrouve l'année prochaine, en octobre, pour votre rentrée dans Bruit de Chine.